Soirée pluvieuse, soirée ou plutôt milieu d'après-midi, mais pluvieux quand même. Nous sommes encore une fois aux Zimmer qui accueillent nos podcasts dans le cadre de Comment tu fais, comment vous faites. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Girardeau. Maxime, bonjour.
Salut Nicolas.
Maxime.
Merci de me recevoir.
Oh, c'est un plaisir. Tout plaisir et même en fait pour vous. Maxime, vous faites partie de cette génération Club Dorothée comme moi.
Non, Dragon Ball Z, on a dit.
Dragon Ball Z, et on y reviendra. Vous avez passé une douzaine d'années, ai-je lu, au service des GAFAM. Peut-être est-ce pour cette raison que, par mesure de rédemption, vous avez décidé d'écrire des livres. Sauf que depuis, vous incubez aussi des startups. Là, il faudra nous expliquer ce que ça veut dire.
Très bien.
Et vous faites partie de ces gens à qui je peux dire le mot tech, sans que vous ne pensiez à des arbres des zones tropicales.
Tout à fait.
Maxime, cette biographie est relativement fidèle.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien.
Les années 80, on y revient. On vient d'apprendre le décès d'Akira Toriyama.
Ouais.
Ça fait partie des figures de proue de notre enfance, si je peux dire. Dragon Ball.
Qu'est-ce que ça m'évoque,
pour vous?
C'est ça? Bah, ça m'évoque le mercredi matin, ça m'évoque le samedi matin, tu te réveilles, la maison dort encore, tu files devant la télé, tu prends tes biscottes et puis c'est les aventures de Dragon Ball. C'est un super souvenir. Après moi j'ai jamais accroché au côté manga etc, donc j'ai pas perduré après dans la lecture de manga. Ça c'est plutôt mon fils qui fait ça aujourd'hui et qui m'éduque là-dessus. Mais c'est un souvenir tendre, c'est beaucoup de nostalgie. Ça fait partie avec Goldorak, Ken le survivant, on s'en canaillait un peu quand on regardait Ken.
Et puis on va essayer de découvrir les 7 points qui, enfin, pas d'influence, on nous accuserait de corrompre la jeunesse. Ces années 80, on en a retenu des coupes de cheveux improbables et des tenues vestimentaires tout aussi improbables. Des années 80, vous ni moi n'avons retenu grand-chose. En revanche, à partir des années 90, il y a des choses qui nous ont marquées. Vous, c'est le cinéma, la littérature, les jeux vidéo. Commençons par le cinéma. Quelles sont vos références? Quels sont vos films cultes? Pour employer des gros mots.
J'ai un vif souvenir du film Seven. Alors, j'ai vu plein de films avant, mais je crois qu'il y a toujours une sorte de film un peu pivot qui construit une cinéphilie. Moi, c'est Seven. C'est la rencontre avec Fincher. Juste après ou juste avant ou à peu près au même moment, je rencontre It, donc Michael Mann. C'est un peu deux films pivots qui me donnent envie d'en voir plus. Et là, je deviens boulimique de cinéma. Et en même temps que je deviens boulimique de cinéma, je commence aussi à lire beaucoup. Et du côté, du coup, j'enjambe la prochaine question.
J'avais annoncé cinéma, littérature, jeux vidéo, bien évidemment.
Exactement. Et du coup, moi, j'ai toujours été accroché par le cinéma fantastique et la fiction fantastique et horreur. Beaucoup Edgar Poe et le King, évidemment, et surtout Lovecraft. C'est Lovecraft qui m'a donné...
C'est quoi? C'est les grands anciens? C'est Nyarlathotep?
Alors même pas. C'est plus son côté thriller. C'est-à-dire que moi, le côté fantastique de Lovecraft, c'est probablement la partie qui m'intéresse le moins. C'est plus le côté thriller fantastique un peu à la Edgar Poe qui m'intéressait le plus. Et ça m'a donné envie, moi, de commencer un petit peu à écrire. J'aimais beaucoup cette ambiance sombre, l'exploration du mal, de la part d'ombre de chacun. Et je crois que ça a été à peu près au même moment dans ma vie où j'ai commencé à avoir un psy. Ce psy-là m'a mis dans les mains des bouquins de psycho, notamment Le merveilleux malheur de Cyrulnik, Le mystère de la patience, qui est aussi un livre qui est entre la psychologie et la philosophie. Et tout ça, ça a commencé en fait à m'éveiller à un univers qui sera probablement l'univers dans lequel j'écris en fait. C'est cet univers qui est à mi-chemin entre le thriller, une violence assez forte. Sur la violence, moi c'est American Psycho, qui est vraiment mon livre de chevet.
J'allais vous dire, comment êtes-vous passé à côté d'American Psycho?
Voilà.
Vous n'y êtes pas passé à côté.
Non, celui-là est... Et donc j'ai un univers qui est très thriller, avec une violence plutôt assumée, qui explore beaucoup la partie psychologique. Et puis après, la part de moi que j'y mets, c'est mon quotidien dans le monde de la tech, que vous avez évoqué juste avant.
Qui n'est donc pas un arbre de zone tropicale.
C'est ça.
Je le précise à l'attention des auditeurs qui n'ont pas la couleur. Vous allez publier un nouveau roman, Je te mens, aux éditions Istia et compagnie. On va essayer d'aborder ça. Votre rapport à l'écriture, votre rapport à la fiction, c'est votre troisième roman.
Oui.
Les deux premiers avaient déjà des connexions très fortes l'un avec l'autre. Persona, Ego, les univers des nouvelles technologies. Grosso modo, c'est une manière de chercher à montrer que nous sommes en danger, ou alors, pour le dire différemment, quels sont les dangers que vous identifiez à travers ces deux premiers et ce troisième roman ?
Alors, c'est pas exactement ça. Je vais juste prendre une minute pour raconter un peu comment je me mets à...
J'adore quand les invités m'expliquent que je fais mal mon travail.
Non, c'est pas ça. Dans mes romans, je mets beaucoup en exergue les problématiques de la technologie. Mais c'est pas ce qui m'a amené à écrire. C'est plus ça que je voulais dire. C'est pas ça qui m'a donné la volonté de faire Persona. Pour être très sincère, ce qui m'a donné la volonté de Persona, c'est que j'étais pas très loin de mes 40 ans. J'ai bossé moi 10 ans dans un des GAFAM, Microsoft pour pas le citer, et j'étais en train de partir, j'avais fait donc 10 ans, et je me suis demandé à ce moment-là si j'étais pas devenu un vieux con, et je me suis fixé une sorte de défi personnel. Est-ce que t'es capable d'écrire encore, est-ce que t'es encore capable d'être cool à presque 40 ans? Et en fait, je venais de refermer le roman Alex de Pierre Lemaitre.
Oui.
Qui a été mon bourgeon, quoi. C'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, putain, ce roman-là, il est dingue. Est-ce que je suis capable à nouveau d'écrire? Est-ce que je suis capable de faire un thriller? Alors, pas à ce niveau-là, parce que toute proportion gardée, le maître, c'est le maître. Mais dans cette veine-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à Persona. Et ensuite, quand la toile de fond, j'ai dû commencer à réfléchir à la toile de fond, naturellement, j'ai parlé de mon quotidien. Et quand je parlais de mon quotidien, bah, c'était mon quotidien dans le monde de la tech. Et donc, en parlant de mon quotidien dans le monde de la tech, j'ai commencé à parler des choses qui m'interrogeaient le plus. Et finalement, ce qui m'interrogeait le plus, c'est pas forcément dans Persona le côté technologique, c'était plus l'aspect psychologique de personnes qui étaient dans un milieu très favorisé, qui finalement étaient dans des rapports interpersonnels très brutaux. Et j'ai voulu les confronter à une violence, elle, réellement...
Qui est celle que l'on retrouve dans Seven, sans rien gâcher.
Exactement. Et donc, il y a tout un lien avec Seven. Mon personnage principal de flic, qui est aussi dans Ego, s'appelle Somerset, qui est une référence directe à Seven. C'était mon petit hommage et ma manière à moi de faire la boucle. Et donc, j'attends que Fincher m'appelle pour en faire l'adaptation.
Je viens de recevoir un SMS, là, il est dans le train, mais il arrive. Il n'y a donc pas de problème, pas de danger avec la tech. C'est ça que vous êtes en train de me dire ?
Si, il y en a plein. Mais je pense que la technologie n'est que ce qu'on en fait. Et donc, en réalité, le problème, c'est qu'est-ce que l'humain, quelle est la part d'ombre de l'humain mélangée à des technologies qui peuvent parfois être très puissantes. Notamment dans Ego, j'ai exploré tout ce qui était manipulation de masse, et c'était notamment très inspiré du problème de Cambridge Analytica sur l'élection de Trump. Donc, comment on est capable de manipuler les réseaux
Facebook,
sociaux. Exactement. Donc, j'ai mis tout ça en toile de fond de Ego. En soi, ces technologies-là n'ont pas été développées pour manipuler les masses. Elles ont été développées pour vendre de la publicité et créer de l'engagement et faire du profit et de l'argent. Détournées par d'autres, ce qui n'était déjà pas, entre guillemets, brillant. Hein. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas,
c'est y a pas, des pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier.
Mais,
certains ont même vendu du temps de cerveau disponible, vous savez.
C'est exactement ça. C'est la version Zuckerberg du temps de cerveau disponible. Ce que je veux dire, c'est que après ça, ça a été détourné par d'autres pour... Des objectifs plus sombres. Mais en réalité, la technologie ne fait rien d'autre qu'être utilisée d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Vous pouvez prendre votre voiture le matin et aller tranquillement au bureau, vous pouvez la prendre et l'envoyer faucher des gens sur le trottoir. C'est la manière dont on l'utilise. C'est pas pour ça que c'est pas dangereux.
On m'a parlé, Maxime, de votre premier manuscrit. Vous aviez 15 ans, vous vous souvenez de cette époque ?
Ouais. Alors non, je m'en souviens pas vraiment. C'est une anecdote étrange. En fait, quand j'ai publié mon premier bouquin, j'ai mon ami d'enfance. Je fais une bise, il s'appelle Patrice, il écoute le podcast, il l'entendra. Et puis, donc on est en train de boire tous un coup, etc. Et il me dit, mais tu sais... Alors, je sais plus exactement la phrase qu'il me dit, mais grosso modo, ça voulait dire ça. Il me dit, j'ai jamais douté que t'écrirais. Et je le regarde et je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais tu te rappelles qu'à l'internat, t'écrivais déjà? Et donc, j'ai une très mauvaise mémoire. Et donc, non, je m'en souvenais pas. Tout ça pour dire que je me souviens pas exactement, si la question est là, des premiers moments où j'ai écrit. c'est assez vague pour moi tout ça. Mais voilà, c'est venu petit à petit. Et mes proches parfois me rappellent que j'écrivais déjà assez tôt.
En revanche, c'est une vocation que vous avez poursuivie avec l'écriture de scénarios court-métrage. C'était une vocation qui découlait de cette rencontre avec Fincher, par exemple. Rencontre
ouais.
à venir, hein,
j'entends. Oui, je pense que c'est ça. À partir de mes 15 ans, je commençais à bouffer des films à tout va. Je passais mes mercredis après-midi, en fait, à côté de la maison de mes parents à l'époque. Donc moi, j'ai vécu en province. Je suis un Picard. Et donc, à côté de la maison de mes parents, il y avait un vidéoclub. Une chose qui n'existe plus aujourd'hui.
Plus vraiment.
Mais vraiment à deux pas. Et tous les mercredis après-midi, j'y allais. Parce qu'en fait, il y avait une petite télé dans un coin où ils diffusaient des films et souvent des films d'horreur que je n'avais pas le droit de voir. Et donc, je passais mes après-midi à regarder les jaquettes de cassettes VHS et à mater le film sans le son d'une petite télé cathodique dans un coin. c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le nom des réals. J'ai appris, j'avais les pitchs des films, etc. Et j'ai commencé à me nourrir beaucoup de toute cette cinéphilie. Et donc, quand au bac, j'ai pu avoir l'option cinéma, j'ai foncé. Et donc, ils formaient des groupes et chacun avait un rôle. Et moi, j'avais le rôle du scénariste. Et c'est là où j'ai fait mon premier scénario de court-métrage. Et derrière, j'en ai fait d'autres. Mais voilà, c'est là où ça a commencé.
Alors, Persona, c'est 2020. Ego vient un peu de temps après. Même personnage, même ambiance de polar. Je te mens. Je vous en prie, Maxime, mentez-moi, de quoi ne parle pas le livre ?
Ça ne parle pas de pâtisserie.
Pas mal. Mais quoi d'autre ?
Ça ne parle pas de science-fiction.
Je vais vous dire, ça parle du corbeau et du renard.
Ah, pas mal. C'est vrai.
Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Quand je dis ça, il n'y a personne qui comprend, sauf ceux qui ont eu le roman entre les mains.
Alors, je vais essayer d'éclairer.
Racontez-nous un tout petit peu. Justement, qu'est-ce que c'est ?
Alors, justement, c'est un projet un peu particulier qui me tient beaucoup à cœur. Donc, pour le pitch, pour le faire très simple, j'ai voulu reprendre le canevas de départ de Fenêtre sur cour de Hitchcock. Donc, et de me mettre un peu en scène. Donc, c'est un écrivain qui s'appelle Max. Donc, le truc a déjà été fait 1000 fois. Mais j'ai essayé de le faire d'une manière un peu différente, qui nourrit une obsession pour son voisin d'en face, en même temps qu'a le syndrome de la page blanche, et va commencer à parler avec une IA générative, en l'occurrence ChatGPT, et va lui poser la première question qui lui vient, c'est « Alors, c'est toi qui vas me remplacer ?» La manière un peu qu'on a de voir l'IA générative aujourd'hui. Et une relation assez particulière va se nouer entre cet écrivain et cette IA générative et va quelque part le pousser dans son obsession, l'amener toujours plus loin dans cette obsession pour ce voisin qu'il a d'en face, pour découvrir si réellement il cache de sombres desseins ou pas. Et donc, j'aime bien la formule que vous utilisez. Elle répond aux quelques lignes que j'ai mis juste avant le début du roman, qui est en fait un court extrait du dialogue de Her, le film de Spike Jonze, qui démarre et qui dit, en fait, c'est le personnage de Joaquin Phoenix qui dit à l'intelligence artificielle, il dit « Est-ce que tu m'aimes ?» L'intelligence artificielle lui dit « Oui, dis-le-moi, je t'aime. » C'est cette mécanique-là, en fait. L'intelligence artificielle n'est qu'un miroir de nous-mêmes et elle est codée pour être à la fois empathique, déterminée et curieuse. Curieuse, c'est elle doit lire la totalité des informations qu'il y a sur Internet. Déterminée, elle doit toujours vous fournir une réponse. Et empathique, c'est elle doit comprendre ce que vous voulez. Et dans la manière dont elle va comprendre, elle va singer, en fait, constamment ce que vous faites, même votre part d'ombre. Le point de départ qui m'est venu en tête pour justement, c'est Nicolas, on démarre cet entretien et vous m'expliquez que vous commencez à regarder de manière importante votre voisin d'en face, qu'il est vraiment très bizarre, etc. Moi, intérieurement...
Je vous le confirme, Maxime, il est très très bizarre.
Il est très bizarre. Je vais vous regarder et je vais vous dire, Nicolas, je pense que vous devriez aller voir un psy, vous pétez un câble. L'action que je suis en train de faire, c'est quelque part l'action de la société. C'est-à-dire la société nous force à contrôler notre part d'ombre, contrôler nos pulsions. C'est les normes du vivre ensemble, etc. Et c'est l'interaction sociale qui nous pousse à ça. Une intelligence artificielle générative, elle est conçue pour constamment être en accord avec ce que vous faites. Et elle va constamment être d'accord. Donc si vous dites ça à une IA générative, eh ben, elle va vous dire « Ah, mais Nicolas, tu as raison, peut-être qu'il faut aller plus loin et qu'il faut comprendre ce qui se passe, etc., prévenir les autorités. » C'est ce point de départ-là que j'ai pris pour analyser quel est l'impact, finalement, de cette entité, cette empathie parfaite sur un personnage assez seul qui, finalement, a des démons qui ne demandent qu'à sortir et qui vont réagir avec tout ça.
Maxime, excusez-moi. Max, votre personnage, vous êtes allé manifestement très loin, mais j'ai peine à comprendre. Votre roman, vous l'avez écrit seul ?
Non, je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai écrit avec un personnage qui s'appelle Loï, qui est généré justement par ChatGPT. Et c'est justement la contrainte créative que je me suis fixée, c'est que en fait, à chaque fois que mon personnage interagit avec l'intelligence artificielle, je pose la question réellement dans la réalité à ChatGPT et je copie-colle dans le texte la réponse de ChatGPT, je le mets en italique, je préviens le lecteur et donc un personnage du roman, Loï, est entièrement généré par ChatGPT dans le roman sans aucune retouche de ma part et donc du coup, j'ai écrit l'entièreté du roman hormis le personnage de Loï, qui lui m'a été imposé par une IA générative.
De la raison pour laquelle cet entretien se poursuivra dans une salle de serveur, vous insistiez pour que l'on rencontre Loï. Maxime, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes avec Loï, donc.
Exactement. Merci Nicolas.